Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive du jour. On plonge direct dans l'avenir économique du Maroc.
Ah oui, un sujet passionnant.
Carrément, on a déniché un article vraiment intéressant d'Iqbal Saya,
Ah oui, je l'ai lu celui-là.
publié sur Lodge Pachama, et on va décortiquer tout ça ensemble.
Parfait.
On va parler de planification stratégique, du rôle du Haut Commissariat au Plan, le fameux HCP, et bien sûr, l'impact sur la vie de tous les Marocains. Accrochez-vous, ça va être passionnant.
Tout à fait. Saya, il met vraiment le doigt sur un moment clé pour le Maroc.
Oui, c'est vrai.
Avec Tchaki Ben Moussa à la tête du HCP, maintenant on sent une vraie volonté de changement.
Ouais.
On se concentre sur la mise en place d'un nouveau modèle de développement basé sur la planification stratégique.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on entend planification, moi, je pense tout de suite au vieux plan quinquennaux,
Ah oui.
un peu rigide de l'époque soviétique.
Oui.
Mais ça y est, il est clair, il ne s'agit pas du tout de ça.
Exactement, pas du tout. On est loin de ces vieux schémas. Là, il s'agit plutôt de créer une vision commune pour l'avenir, une vision qui permet au Maroc de relever les défis futurs avec confiance. Et d'ailleurs, Saya prend l'exemple de la Corée du Sud,
Ah oui?
avec ses politiques de planification plutôt réussies.
Oui.
Des initiatives comme Cyber Korea 21 ou le Green New Deal, ils fixent des objectifs ambitieux et stimulent le progrès national.
C'est une comparaison qui donne à réfléchir quand même. Est-ce que la planification stratégique, ça peut vraiment marcher
Oui.
dans une économie ouverte comme celle du Maroc?
Alors, c'est là que l'expérience coréenne est intéressante. Justement, la planification stratégique, ça peut marcher dans des économies ouvertes,
Oui.
mais il faut un engagement politique, il faut avoir une collaboration entre les secteurs et bien sûr une bonne dose de fierté nationale.
Donc on s'inspire des autres, mais on adapte à notre contexte.
Exactement.
Et justement, comment on adapte ce modèle au contexte marocain?
Alors.
Saya, il souligne que le Maroc a besoin de sa propre approche. Il rappelle l'appel du roi Mohamed VI pour une refonte substantielle du HCP. C'est assez radical comme déclaration, non?
Oui, on parle d'une transformation majeure du HCP. L'article, il met en avant les atouts du HCP. Une institution respectée, une équipe de professionnels dévouée à un système statistique solide et une réputation de recherche objective et éthique.
Oui, d'accord, mais il y a aussi des critiques à prendre en compte.
Ah oui, bien sûr.
Ça y mentionne le CDE qui a récemment remis en question
Oui.
la pertinence et la fiabilité des données du HCP. Ça veut dire que les statistiques sont de mauvaise qualité.
Pas forcément. L'OCDE, elle critique pas la qualité des statistiques en elles-mêmes,
D'accord.
mais plutôt la façon dont elles sont utilisées. C'est un appel à l'évolution pour le HCP, le nouveau modèle de développement. Il met l'accent sur l'humain.
Oui.
Donc, il faut de nouveaux indicateurs pour mesurer le progrès social et le bien-être.
Des indicateurs qui reflètent ce qui compte vraiment pour les Marocains.
Précisément, il faut aller au-delà des chiffres économiques abstraits.
Oui, et comprendre comment les politiques affectent concrètement la vie des gens.
C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. On parle de mesurer le ressenti des gens, leur perception de leur propre situation.
Exactement. Et ces nouveaux indicateurs, ils seraient cruciaux pour élaborer des politiques qui favorisent la justice sociale, la durabilité environnementale et l'efficacité économique.
Tout à fait.
Il pourrait aussi renforcer le débat public et la démocratie marocaine.
Donc, il ne s'agit pas seulement de collecter des données, mais de les utiliser de manière plus significative.
Oui.
Mais est-ce que les chiffres suffisent?
Alors, Saya, il est clair, il ne faut pas se contenter des chiffres. Il faut aussi écouter les citoyens, comprendre leur ressenti, leur perception de leur vie et de la société.
C'est vrai, les perceptions des gens, leurs expériences vécues, ça joue un rôle énorme
Oui.
dans la réussite ou l'échec d'une politique publique.
Absolument, leur soutien ou leur rejet dépendra de leur perception de l'impact de ces politiques sur leur vie quotidienne.
Alors, comment le HCP peut-il intégrer ces éléments dans son travail? Quelle direction le HCP devrait-il prendre? Est-ce que Saya propose un plan d'action concret?
Oui, il trace une voie à suivre. D'abord, le HCP doit identifier un nombre limité de priorités, celles qui répondent aux défis les plus urgents du Maroc. Pas question de se disperser, il faut se concentrer sur ce qui compte vraiment.
On dirait un appel à une action ciblée, finit le gaspillage des ressources, mais qui décide de ses priorités.
C'est là que la consultation devient essentielle. Saya insiste sur l'importance d'une large consultation impliquant tous les acteurs de la société, les collectivités locales, les entreprises, les syndicats, les universités, les associations et bien sûr les citoyens. Imaginez un peu la richesse des perspectives.
Wow. Ça, c'est de la participation citoyenne, mais concrètement, comment ça se passe? Qui organise ces consultations?
Saya suggère que le HCP et le Conseil économique, social et environnemental pourraient piloter cet effort. L'objectif est de dégager une vision partagée des priorités et des actions à entreprendre un véritable travail d'équipe.
Et quels sont les thèmes prioritaires que Saya met en avant? Est-ce qu'il donne des exemples concrets?
Il identifie plusieurs thèmes clés: la réduction des inégalités et des disparités, l'instauration de la justice sociale et territoriale, la création de richesses et l'amélioration des services publics. Autant de défis qui touchent la vie quotidienne des Marocains.
Des défis de taille, c'est certain, mais comment on passe de la consultation à l'action concrète? Comment on s'assure que ces belles idées se traduisent en résultats tangibles pour les gens?
Saïa propose un calendrier assez serré. Fixer des objectifs à 3 ans pour chaque priorité et élaborer des lois de programmation pour les atteindre.
Ah oui.
Ce calendrier court, ça impose des actions immédiates déterminées et coordonnées. Fini la procrastination.
Des lois de programmation, qu'est-ce que c'est exactement?
Imaginez une loi qui définit un cadre global pour une politique publique avec des objectifs précis, des moyens financiers dédiés et un calendrier d'exécution. C'est ça, une loi de programmation. Ça permet d'assurer la cohérence et le suivi des actions sur le long terme.
Intéressant. Donc on fixe des objectifs clairs, on met les moyens financiers et humains en place et on suit l'avancement des projets, mais qui est responsable de tout ça.
Saïa insiste sur le rôle central du Parlement.
Oui.
C'est au Parlement d'examiner toutes les lois de programmation pour s'assurer de leur cohérence avec les priorités définies collectivement, un rôle de contrôle essentiel pour garantir la bonne marche du processus.
On voit bien la volonté de créer un cadre solide pour la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Un cadre qui implique tous les acteurs du citoyen au Parlement, en passant par le HCP et les différents ministères.
Exactement. C'est une approche globale qui vise à garantir la cohérence des actions entreprises et à maximiser l'impact sur le terrain.
Mais au-delà des structures et des mécanismes, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose d'essentiel pour que tout cela fonctionne?
Saïa met le doigt sur un élément crucial, la confiance.
Ah oui, la confiance.
La confiance entre les différents acteurs, la confiance des citoyens dans les institutions, la confiance dans la capacité du pays à se transformer.
C'est vrai, la confiance est le ciment d'une société sans confiance. On avance difficilement, mais comment on restaure cette confiance? Comment on convainc les Marocains que ce nouveau modèle de développement, il est différent des précédents?
Il faut un engagement sincère de la part de tous les acteurs, une transparence totale dans la prise de décision et des résultats concrets qui améliorent la vie quotidienne des gens. C'est en montrant des progrès tangibles, en touchant concrètement la vie des citoyens, qu'on regagnera leur confiance.
Et ce n'est pas seulement une question de chiffres, de statistiques économiques. C'est aussi une question de justice sociale, d'accès aux services publics, de respect de l'environnement, bref, de qualité de vie pour tous les Marocains.
Tout à fait, Saïa nous rappelle que cet exercice de planification, il est éminemment politique. Il doit être guidé par une vision claire, celle d'un Maroc où chacun a sa place, et peut contribuer au développement du pays à un Maroc plus juste et plus prospère.
Une vision qui s'appuie sur des valeurs fortes, comme le patriotisme, la solidarité, l'effort collectif, des valeurs qui ont toujours été au cœur de l'identité marocaine.
Absolument. Et c'est en ravivant ces valeurs, en les mettant au service du développement du pays, qu'on réussira à mobiliser toutes les énergies et à construire un avenir meilleur pour tous.
C'est une vision inspirante, c'est certain, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Comment on surmonte les obstacles, les résistances, les intérêts particuliers qui ne manqueront pas de se dresser sur le chemin?
Ah, c'est sûr, il y aura des obstacles.
Oui.
Mais Saïa, il nous encourage à avoir une vision à long terme pour le Maroc.
Dépasser les intérêts à court terme.
Exactement.
Penser aux générations futures.
Oui, penser en termes de générations. Construire un avenir durable pour nos enfants et petits-enfants.
Mais comment faire passer ce message? Comment convaincre les gens de s'engager dans une vision à long terme alors que les problèmes du quotidien sont si pressants?
Alors là, Saïa, il plaide pour une transformation profonde du rôle de l'État.
Il imagine un État garant de l'intérêt général, capable de piloter le développement du pays en s'appuyant sur une expertise solide et des informations fiables. Un État qui anticipe les défis de demain au lieu de simplement réagir aux crises du présent.
Et c'est là que le HCP revient en force.
Oui.
En fournissant des analyses rigoureuses basées sur les sciences humaines et sociales, le HCP peut éclairer les choix stratégiques du gouvernement.
Exactement. Le HCP a le potentiel de devenir une véritable boussole pour l'action publique. Mais pour ça, il faut lui donner les moyens de sa mission.
On parle de ressources humaines, de budget, mais aussi de liberté d'action, d'indépendance vis-à-vis des pressions politiques. Est-ce que ça y aborde ces questions?
Oui, il insiste sur la nécessité de doter le HCP des outils et des compétences nécessaires pour mener à bien ces analyses. Il faut des chercheurs de haut niveau, des moyens techniques performants et une culture institutionnelle qui valorise l'indépendance et la rigueur scientifique.
Et il ne suffit pas de produire des rapports qui restent enfermés dans des tiroirs. Il faut que ces analyses soient accessibles à tous, que les citoyens puissent comprendre les enjeux et participer au débat public.
Tout à fait, la transparence est essentielle pour restaurer la confiance et encourager la participation citoyenne. Saïa, il utilise une expression forte. Il dit que le HCP doit devenir tendance.
Tendance, c'est original pour parler d'une institution gouvernementale. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Je pense qu'il veut dire que le HCP doit s'affirmer comme une institution moderne, dynamique, connectée aux réalités du pays et aux aspirations de la population. Une institution qui inspire la confiance, qui donne envie de s'engager.
Un HCP qui parle le langage des gens, qui utilise les nouveaux médias, qui organise des événements grand public pour expliquer ses travaux et susciter le débat. Un HCP qui sort de sa tour d'ivoire.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Le HCP a un rôle crucial à jouer dans la construction d'un nouveau récit pour le Maroc. Un récit qui met l'accent sur l'intelligence collective, l'innovation, la solidarité.
Un récit qui redonne espoir et confiance en l'avenir, qui mobilise les énergies pour construire un Maroc meilleur pour tous. C'est un défi taille, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire.
Tout à fait.
L'article Saya nous invite à repenser notre modèle de développement, à passer d'une logique de court terme à une vision de long terme, à placer l'humain au cœur de nos préoccupations. Et surtout, à nous engager collectivement dans la construction d'un Maroc plus juste, plus prospère, plus solidaire. C'est un message puissant, un appel à l'action. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. J'ai l'impression d'avoir une vision beaucoup plus claire des enjeux et des opportunités pour le Maroc.
Merci à vous, c'était un plaisir d'en parler.
Et à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. J'espère que ce deep dive vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos réactions et vos idées. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration. Ahé.